La promesse de Dieu. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ceci est la pensée de Dieu en créant l'homme Adam, qui sera le père de tous les hommes sur la surface de la terre. Adam devait être le dieu de la terre. Il devait dominer et assujettir tout ce qui se meut sur la terre qui a le souffle de vie. Mais Adam, avant d'être dieu de la terre, il devait avant tout cultiver en lui la nature de Dieu son créateur et dieu de l'univers. Et surtout de garder ce mouvement de Dieu, la vie de Dieu. La vie de Dieu, le mouvement de Dieu devait se manifester visiblement dans le comportement, attitude, conduite, langage et les gestes et les actions d'Adam. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu le Créateur a même commencé à apprendre à Adam à dominer et à assujettir toutes les créatures, en commençant par les animaux, les oiseaux du ciel. Genèse 2, 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dieu voulait qu'Adam puisse aussi créer, afin de remplir la nature humaine sur la surface de la terre. Genèse 2, 18, et aussi les versets de 21 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Toutes ces manœuvres de Dieu, c'est pour que ceci s'accomplisse. Prenons Genèse 1, de 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ceci veut dire manger les fruits de tous les arbres du jardin d'Éden. Cet arbre dont Dieu a ordonné à Adam de manger les fruits n'est autre que le Christ, l'arbre de vie. La vie de Dieu qui est aussi le mouvement de Dieu. Si Adam avait rempli ses ordonnances de son Créateur, Adam serait appelé fils de Dieu, à l'image et la ressemblance de Dieu saint. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ici, dans ce passage, il est dit « Vous serez saints » et non « Vous êtes saints ». Si Adam avait cultivé toutes ces choses selon la volonté de Dieu son Créateur, Adam serait saint Il ne faut pas confondre le temps d'annonce et le temps d'accomplissement. Ce passage est la vision de Dieu en créant l'homme. C'est que l'homme devienne comme Dieu, son créateur. Mais hélas, Adam, par sa désobéissance, il a rejeté l'offre de son Dieu créateur. Il a choisi le monde. Une petite précision, le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Dieu est esprit. Sa présence est nommée jardin. Rappelez-vous de ces passages. Exode 3, de 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Josué 5, de 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Le jardin où Adam a été placé était un lieu saint, c'est-à-dire la présence de Dieu. Donc Adam a été placé dans ce lieu saint, et cela pour qu'Adam cultive la sainteté de Dieu en lui, c'est-à-dire la vie de Dieu ou son mouvement. Seul Christ, la parole de Dieu, qui permet à l'homme de porter en lui la sainteté de Dieu, enfin de le rendre éternel comme Dieu. Jean 6, de 48 à 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » La parole des hommes, quelle que soit sa sagesse et son intelligence, ne peut rendre un homme saint. C'est pour cela la loi de Moïse, ses ordonnances, ses rites, et traditions ne peuvent jamais rendre un homme saint. Hébreux 10, de 1 à 4. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exactitude de représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Adam, refusant d'écouter et de mettre en pratique les ordonnances de la parole de son Créateur, Adam a fait son choix en écoutant la parole de Satan par sa femme. Genèse 3, de 1 à 6 et de 9 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Catastrophe pour Adam et sa femme. Adam ne peut plus être Dieu de la terre. Il doit dégager le jardin, la présence de Dieu saint. Adam devient étranger pour Dieu. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les descendants d'Adam, dont nous sommes, nous sommes des étrangers à cause d'Adam, notre père charnel, le pécheur. Genèse 3, 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Mais Dieu, par l'amour de sa créature, Dieu va trouver un plan pour le rachat d'Adam, c'est-à-dire de ses descendants. Dieu va menacer le serpent, image de Satan. Dieu va menacer le serpent responsable qui a conduit Adam et sa femme à désobéir à la parole de Dieu. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Le descendant de la femme. Pourquoi le descendant de la femme? La femme étant responsable de cette histoire, elle doit elle-même porter cet homme, qui est chargé du rachat des descendants d'Adam. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Luc 1, versets de 26 à 35. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On remarquera que l'ange qui avait annoncé cela n'était pas parti. Qu'attendait-il, cet ange ? Il attendait la réponse de Marie la Vierge. Ce n'est pas Marie la Sainte, comme prétendent plusieurs dénominations chrétiennes. Luc 1, 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. La bénédiction de Dieu demande aussi la participation de l'homme pour que la bénédiction s'accomplisse. Cette promesse qui a été annoncée à travers les âges a été accomplie à son temps. Habacuc 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu pour les hommes, c'est Jésus, le corps du Christ. À travers ce corps, Dieu, par sa parole, va accomplir sa volonté. Hébreux 10, de 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est donc cet homme Jésus qui est porteur de toutes les promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu que Jésus devenu Jésus-Christ, ces promesses sont regroupées sur une seule personne, la personne du Saint-Esprit de Dieu. Donc, celui qui croit en Jésus, qui a la foi en Jésus, qui obéit en Jésus, obéit, croit et a la foi à Dieu, il reçoit alors la promesse de Dieu. Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car en Jésus, le corps du Christ, habite toutes les promesses de Dieu saint. » Colossiens 2, 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est par le baptême, par immersion dans les eaux qui coulent, que nous devenons Jésus, les enfants adoptifs de Dieu. C'est cela le rachat par Jésus, le corps du Christ. Romains 8, 15 et 16. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le cadeau, c'est donc l'esprit d'adoption qui est l'esprit du Fils. Le cadeau d'être enfant de Dieu et héritier du royaume de Dieu et son Christ. Quel est alors le plus grand cadeau que Dieu peut donner si c'est devenir son Fils et frère de Jésus le Fils aîné? Ce cadeau est impérissable et personne ne peut te l'arracher. Par contre, la grâce, elle est donnée à toutes les créatures sans condition, bon comme méchant. La différence, c'est que ces cadeaux, on peut nous les arracher. Jésus-Christ ne nous a pas parlé des cadeaux périssables. Jésus-Christ nous a toujours parlé et continue de parler des choses du royaume de son Père, des choses impérissables. Et c'est vers ces choses que nous devons nous atteler et rechercher. Jésus-Christ est le cadeau que nous devons rechercher, la vie éternelle, le corps incorruptible comme celui de Jésus ressuscité. Ceux qui sont obsédés par la recherche des choses périssables ne sont pas de Dieu, ils sont du monde. Les choses du monde sont données à toute créature. Seule condition, le travail. Jésus est le cadeau que Dieu donne aux hommes croyants. Pour l'obtention de ces cadeaux, Dieu exige l'achat sans argent. Ésaïe 55, de 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Payer sans argent, cela veut dire croire, avoir la foi, obéir à la parole de Dieu. C'est cela l'argent que nous devons payer pour obtenir ces cadeaux qui sont en Jésus-Christ. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cessez de courir çà et là, maîtrisons nos pieds. Jérémie 13, de 11 à 17. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays. Les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous entendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Jérémie 14, de 10 à 16. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir çà et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes, et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah, Seigneur Éternel, voici, les prophètes leur disent, Vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les aie envoyés et qui disent « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. » Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Amis frères et sœurs en Christ, les cadeaux que vous prophétisent ces hommes ne viennent pas de Dieu. Faites attention, car ces hommes qui vont jusqu'à dire « Le Seigneur m'a conduit visiter l'enfer » sont des menteurs. Le Seigneur n'est pas venu prêcher l'enfer, il est venu prêcher le royaume de son Père. Le Seigneur ne peut pas faire la promotion de l'enfer. Comment imaginer qu'un homme vous invite chez lui pour vous amener à visiter la résidence de son opposant? C'est insensé. Écoutez bien ce passage, Jean 14, de 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus-Christ invite ses serviteurs. C'est pour leur faire visiter le royaume de son Père, et non pour vous faire visiter la prison, qui est la résidence de Satan. C'est Satan qui les a invités pour faire la promotion de sa résidence. Ces menteurs sont au service de Satan. Ils sont envoyés par leur maître pour tromper les enfants de Dieu, par Jésus-Christ. Et cela, sous le nom de Jésus-Christ. Donc, par Jésus-Christ, en se servant de son nom. Marc 13, 5 et 6. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Frères et sœurs en Christ, soyez sages et intelligents. Examinez toutes choses. Ne courez pas vite. Matthieu 15, 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Jésus-Christ n'a jamais parlé des choses du monde, car la promesse de Dieu par Jésus-Christ sont des choses éternelles, une promesse impérissable. 1 Jean 2, de 12 à 27. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cherchons les choses du royaume de Dieu et son Fils. Soyons Jésus, le corps du Christ. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 14, versets de 12 à 21 et aussi le verset 23. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Frères, sœurs, soyez attentifs, et écoutez la parole spirituelle, car l'être tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous prêchons le Christ et non l'homme. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà pour cet enseignement, frères et sœurs, sur la promesse de Dieu. Rendons grâce à Dieu, car à lui revient toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu.